Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grain à moudre d'été. Ce soir, le pape peut-il mettre la curie au pas ?
La curia è chiamata a migliorarsi.
La curie est appelée à s'améliorer. Voilà ce que disait le pape il y a 4 ans et demi au Vatican. Il énonçait clairement l'un des objectifs de son pontificat, réformer la curie. Un discours ferme prononcé devant les membres de cette assemblée. Aujourd'hui, cette réforme est quasiment terminée. Le texte, une constitution apostolique, la première d'ailleurs depuis 1988, devrait être présenté au pape à la fin de l'année. C'est ce qu'on a pu entendre en fin de semaine dernière, au terme d'une nouvelle réunion du Conseil des cardinaux, une instance créée par François pour l'aider à changer le fonctionnement de l'Église, jugée trop centralisé et sclérosé. Ce changement, il lui avait été réclamé par de nombreux cardinaux au moment de son élection en 2013. Un changement devenu de plus en plus nécessaire, de plus en plus large aussi au fil du temps, à cause entre autres des scandales de ces dernières années, pédophilie et agressions sexuelles sur des religieuses. Cela dit, il y a des résistances nombreuses. D'autres cardinaux ne veulent pas de réforme, pas de réforme du tout. Ils contestent le fond, la forme aussi. Ils s'en prennent à la méthode et à la personnalité de François. D'où cette question, le pape peut-il mettre la curie au pas. Trois invités pour en débattre ce soir. Isabelle de Gaulmin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, rédactrice en chef au sein de la rédaction du journal La Croix. Vous êtes aussi l'auteur d'Histoire d'un silence, livre sur la pédophilie dans le diocèse de Lyon. C'est publié au Seuil. Céline Béraud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directrice d'études à l'EHESS. Vous avez écrit avec Philippe Portier, Métamorphose catholique, acteur en jeu et mobilisation depuis le mariage pour tous, un livre publié par les éditions de la Maison des sciences de l'homme. François Mabille, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS. Chercheur en sciences politiques au sein du groupe Religion, Société, Laïcité. Vous travaillez aussi à l'École pratique des hautes études et vous avez dirigé un livre qui nous intéresse ce soir sur la difficile réforme de l'Église catholique. Livre qui analyse notamment les mécanismes d'emprise de l'institution. Son titre, La longue transition du catholicisme, c'est aux éditions du Cygne. Le sujet, la curie, et on va élargir évidemment ce sujet, mais le sujet n'est pas simple comme l'est d'ailleurs le fonctionnement plus global du Vatican et plus largement de l'Église catholique. Quelques repères donc pour commencer cette discussion. Une première question assez simple pour planter le décor, Isabelle de Gaulmin. La curie romaine, c'est quoi ?
La curie, c'est l'organe de gouvernement central de l'Église catholique. Alors, ça a l'air comme ça simple, mais en fait, c'est pas simple parce que l'Église catholique, c'est pas comme un pays, c'est 1,2 milliard de personnes sur tout le globe. Donc, comment est-ce que vous voulez gouverner ça d'un point, en l'occurrence à Rome,
c'est souvent très éloigné. Oui,
donc c'est pas vraiment un gouvernement, mais enfin, ça fait office de gouvernement avec ces 4000 personnes. Donc, c'est pas grand-chose. Hein, c'est pour 1,2 milliard de personnes, c'est rien. Avec des ministères qu'on appelle à Rome les dicastères. Voilà, avec toute une forme d'administration, avec des tribunaux, avec des académies aussi. Donc voilà, c'est ceux qui expriment son service du pape et ils expriment un peu finalement la logique centralisatrice de l'Église.
Logique centralisatrice, et François Mabille, un fonctionnement qu'on pourrait qualifier de complexe. Quel est l'adjectif que vous pourriez utiliser ?
Non professionnel, assurément. Assez exotique. Également, et résultant du fruit de compromis, d'une part, et d'une histoire longue.
La première curie date de la fin du XVIe siècle.
Voilà, et les réformes et les textes sur la curie sont nombreux. Hein. Vous les retrouvez au Concile Vatican I, avec une définition d'ailleurs du rôle de la curie donc à la fin du XIXe siècle, puis une réforme en 1908, puis une seconde
Dans
les années 60, au moment du Concile Vatican II, puis juste après le Concile Vatican II, la réforme de 1988 que
celle de Jean-Paul II.
Voilà, des décrets sous Benoît XVI en 2009 et 2010, et enfin celle qui est attendue. Donc ça permet peut-être de relativiser ce que l'on attend de cette réforme, puisqu'elle s'inscrit dans, je dirais, une histoire des réformes. Et peut-être, et ça renvoie à la dissociation que vous introduisiez, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu d'une réforme, qui est une réforme, je dirais, gouvernementale, avec une ambiguïté, j'y reviendrai, et puis peut-être ce que les fidèles en attendent, et qui porte plus peut-être sur le fonctionnement global de l'Église catholique. Là, il ne s'agit pas du fonctionnement global de l'Église catholique, il s'agit du fonctionnement d'un gouvernement.
Cela dit, est différent. François a en tête aussi ses fidèles, il les écoute, oui. Aussi certains des cardinaux qui sont sur le terrain.
Tout à fait, mais je pense que ça fait partie non pas de l'irrationalité, mais de l'ambiguïté du processus d'élection du souverain pontife. Vous disiez en introduction, les cardinaux attendaient du pape une réforme, une réforme de la curie. Oui, une reprise en main, assurément. Peut-être plus de transparence sur certains sujets, financiers notamment, oui. Une réforme sur l'organisation globale de l'Église, plus de collégialité, une meilleure articulation avec les conférences épiscopales, je n'en suis pas sûr.
Isabelle de Gaulmin.
Oui, il faut effectivement bien se souvenir que le pape François a en partie été élu pour ça. C'est-à-dire que, en fait, la fin du pontificat de Benoît XVI a été un peu catastrophique avec toutes les affaires financières, et puis aussi le sentiment que le pape n'arrivait pas finalement à dompter la curie, il n'arrivait pas à imposer son avis. C'était très opaque, avec une curie qui n'arrivait pas à s'entendre, etc. Donc, il y a vraiment une demande que le pape François réforme, et c'était même presque dans sa lettre de mission au nouveau pape, c'était un peu le premier point. Donc, c'est pour ça qu'il s'y est attaqué et attaché. Et d'ailleurs, on a élu un homme qui, en Argentine, avait cette réputation-là d'être un homme de gouvernement, ce que n'était pas Benoît XVI.
On va l'entendre, le pape, dans quelques instants. Encore une question, François Mabille. Pour la réformer, cette curie, que faut-il ? Est-ce qu'il faut un vote ou une simple décision papale ?
L'histoire récente nous donne déjà des informations, parce que là, on attend le texte final, en quelque sorte. Mais depuis 5 ans, le pape a lancé déjà beaucoup de réformes. Il l'a fait à travers un organisme spécifique.
Le fameux
Conseil des Neuf, qui est devenu en fait un Conseil des
Huit. Voilà, huit, neuf, six.
Six, voilà. Ouais. Et il l'a fait à travers, on peut dire, des décrets personnels. Il ne faut pas oublier que depuis 5 ans, il y a eu beaucoup déjà de transformations. Ce qui manque sur ces sujets aujourd'hui, c'est une évaluation. Un petit peu, si vous voulez, si on fait une comparaison avec un État, le pape a lancé une réforme de sa politique publique, de la politique publique de l'État du Vatican, de son gouvernement. Et bien, de la même façon que lorsqu'on évalue une politique publique pour un État normal, eh bien, il y a un certain nombre de créations qui demandent 4 ans, 5 ans plus tard, une évaluation. Ça, c'est un premier point. Et ce que l'on attend, en fait, c'est la vue générale pour les prochaines années, l'organisation générale au-delà des réformes ponctuelles et très souvent urgentes. Les premières réformes qui ont été lancées, elles ont porté sur l'Institut des Affaires de la Religion, c'est-à-dire sur les finances, sur l'économie du Vatican, avec des économies vraiment importantes qui ont été menées, sur la question de la pédophilie, il y a eu quand même une succession de décisions qui ont été prises.
Isabelle de Gaulmin.
Oui, il y a une manière de réformer qui est propre au pape François, qui est intéressante d'ailleurs à examiner pour tous les gouvernements, parce que alors qu'avant on avait un système qui, par définition, très bureaucratique, très centralisé, avec un pape qui imposait un texte. Là, effectivement, ce pape-là, c'est assez curieux parce qu'il lance des choses, il écoute beaucoup, il dit ce qui est important, c'est le processus, beaucoup plus que le texte lui-même. Donc, il lance des processus. Ce qui fait que, par exemple, une des principales choses qu'on a appris récemment, que dans cette future curie, il pourrait y avoir des laïcs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas prêtres, et des femmes à des postes de responsabilité. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, mais finalement, ça fait 4 ans qu'il nous prépare à ça. Donc voilà, il a lancé plein de processus de réforme. On n'est pas sur quelque chose comme avant, où on dictait un texte qui arrivait du jour au lendemain avec des choses qui changeaient. C'est intéressant. Je trouve même que c'est assez moderne et que ça pourrait peut-être inspirer, je ne sais pas pourquoi, M. Macron. Voilà.
Céline Béraud.
Oui, la question des femmes, elle est assez intéressante, à la fois de ce qu'a pu susciter le pape François chez les fidèles ou chez les permanents de l'Église catholique, parce que Isabelle de Gaulmin le rappelait, il a été élu pour ça, mais il a tout de suite aussi suscité chez les fidèles une attente très forte de réforme, et sur un sujet en particulier qui est celui de la place des femmes dans l'Église catholique, avec un discours assez ambigu, c'est-à-dire que très vite il dit qu'il faut agrandir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église. Ça, il le dit en septembre 2013, donc quelques mois seulement après avoir été élu. Et en même temps, lorsqu'il est au JMJ de Rio, il referme tout de suite la question de l'ordination, en disant qu'il faut surtout pas cléricaliser les femmes. En 2013, il y a l'idée justement de faire accéder les femmes femmes au sommet de l'autorité religieuse catholique en les faisant accéder au collège cardinalis, en dénouant le lien entre le fait d'être cardinal et le fait d'avoir reçu le sacrement de l'ordre. Et c'est une idée qu'il balaye. Et c'est intéressant parce qu'on la voit d'une certaine façon revenir aujourd'hui, parce que parmi les bruits qui circulent, le texte n'étant pas encore public, parmi les bruits qui circulent, il y aurait l'idée que justement des femmes pourraient être préfète de dicastère, donc c'est
ces ministères,
ces fameux ministères qu'évoquait Isabelle de Golemin, et pour qu'elle devienne préfète, justement, là aussi, il suffirait qu'elle soit débaptisée et pas uniquement des clercs.
Alors, on va revenir sur toutes ces questions plus larges, hein, qui dépassent celles de la curie. Parlons encore quelques instants de cette curie qui doit être réformée, et vous le disiez, Isabelle de Golemin, c'est en partie ce pourquoi François a été élu en mars 2013, curie très critiquée par le pape, près de deux ans après son élection, on est en décembre 2014, discours prononcé devant les membres de cette curie, le message est limpide.
La curia est chiamata a migliorarsi.
La curie est appelée à s'améliorer toujours, à grandir en communion, sainteté et sagesse pour réaliser pleinement sa mission. Pourtant, elle, comme tous les corps humains, est exposée aux maladies, à des dysfonctionnements. Et donc, je voudrais citer certaines de ces éventuelles maladies. Des maladies que j'appellerais curiales. Ce sont des maladies courantes, des tentations qui affaiblissent notre service au Seigneur.
Alors, on va parler de ces maladies dans quelques instants. La curie est malade. La curie doit changer. Malade, le mot est fort. François Mabille, de quoi souffrait-elle la curie en 2014, selon François, et est-ce qu'elle souffre encore de ces mêmes maux aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, je n'en sais rien, il faut le demander au pape. Les mots étaient extrêmement nombreux. Je vous signale d'ailleurs qu'on retrouve, alors de manière sans doute édulcorée, mais enfin des critiques extrêmement virulentes du pape à l'encontre du corps diplomatique, il y a deux ans, hein, au mois de en décembre, avec finalement toujours les mêmes aspects, c'est-à-dire la curie est trop mondaine, les membres ne sont pas suffisamment spirituels, ordonnées autour de valeurs morales, etc., etc.
Elles sont rares, ces critiques, aussi fortes, c'est assez
à ma connaissance,
rare d'entendre un chef d'État.
À ce niveau-là, oui, et je ne suis pas sûr, très honnêtement, vous évoquiez tout à l'heure la réforme et la pédagogie de la réforme, je ne suis pas sûr que le meilleur moyen de réformer un corps comme le corps cardinalis soit de commencer par expliquer que ce corps est composé de personnes malades. Ouais. Bon, ça, c'est une approche qu'on a déjà connue en France avec Claude Allègre, hein, qui voulait dégraisser le mammouth. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Ouais. Donc, je ne dis pas que le mammouth cardinalis l'emportera sur le pape, mais vous voyez, il y a dans son approche, je crois, et ça renvoie de nouveau au débat qu'on évoquait il y a un instant sur l'attente plus générale des fidèles, je pense qu'il y a de la part du pape la volonté de s'appuyer sur une éventuelle ou hypothétique opinion publique catholique ou sur les fidèles pour dire, voilà, je sais qu'il y a une attente et donc je pointe du doigt les dérives du système pour mieux être soutenu par ce corps public.
Céline Béraud.
Oui, le scandale, il est aussi connu aujourd'hui par un certain nombre de reportages, d'ouvrages. Je pense que l'ouvrage Sodoma de Frédéric Martel...
Sur l'homosexualité dans l'Église.
La présence de nombreux clercs homosexuels à la curie et qui ont ce double discours, c'est-à-dire de condamnation de l'homosexualité, c'est le discours public, et des pratiques privées gardées dans une forme de culture du secret qui serait en contradiction avec cela. Donc scandale sexuel, scandale financier, il y a quand même eu aussi c'est une série d'affaires qui ont été révélées et qui donnent de l'image de la curie une image assez négative aux fidèles.
Qu'est-ce qui ne plaisait pas au pape dans cette curie?
Le problème, c'est que c'est une curie. Enfin, la curie, c'est par définition le domaine de l'entre-soi. Déjà, vous avez ça dans toutes les administrations. Enfin, on parle de l'ENA, l'énarchie, etc. Mais là, c'est un tout petit milieu et c'est en plus un milieu d'hommes âgés et qui en plus sont là pour faire carrière, alors que normalement, quand on est dans l'Église, on n'est pas là pour faire carrière. guerre. Donc ça déplaisait beaucoup au pape. Et puis peut-être, très fondamentalement, et c'est ça qu'il est en train d'essayer de changer, cette curie pensait qu'elle était là pour imposer sa vision à l'Église. Et le pape dit, attention, c'est pas ça. On n'est pas dans un gouvernement où il y a des gens au centre qui doivent gouverner à l'extérieur. Non, il y a des catholiques qui vivent sur toute la planète et la curie, elle doit être au service de cette Église. Mmh. Et c'est voilà, de passer du pouvoir au service. Et ça, c'est difficile. D'ailleurs, ça se fera pas avec des textes, mais à mon avis, il faudra changer les personnes.
Vous parliez, François Mabille, de maladie morale. Le pape, dans ce discours, en a dressé toute une liste. Il s'est arrêté aussi sur un point dans cette liste, les commérages, ce qu'il appelle la maladie des commérages. Je vous propose de l'écouter.
La malattia delle chiacchiere,
la maladie des commérages,
delle mormorazioni e dei pettegolezzi,
des murmures et des regrets.
Di questa malattia,
de cette maladie, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois,
ma mai abbastanza,
mais jamais assez.
È una malattia grave,
c'est une maladie grave
che inizia semplicemente,
qui commence simplement, peut-être juste pour échanger quelques mots, et qui ensuite s'empare de la personne
facendola,
en la transformant en une semeuse de
zizanie.
Comme Satan, et qui dans de nombreuses occasions tue de sang-froid la réputation des collègues et des confrères.
Les mots sont forts du pape François, il cite Satan, il dit que cette attitude tue de sang-froid des réputations. Vous le disiez Isabelle de Golemin avant qu'on écoute cet extrait du discours du pape François, c'est un milieu d'hommes, un entre-soi propice à ces discussions
ans,
de couloir.
À Rome, à suivre la curie, effectivement c'est le lieu des commérages le plus absolu. Et alors en plus le pape François a été victime. C'est pour ça qu'il est si fort. C'est-à-dire que dès le départ, toutes les rumeurs autour de lui, autour de son entourage, etc., ont commencé à enfler. Donc, c'est ça qui l'a énervé finalement.
Et c'est ce à quoi il veut mettre fin.
C'est ce à quoi il veut mettre fin et surtout de dire aux gens, ils sont pas là pour ça, quoi. Alors, c'est vrai que les mots sont rudes et peut-être que c'était pas très diplomatique, mais le pape Benoît XVI avec plus de douceur d'une certaine manière, il a aussi essayé de réformer, mais il n'y est pas arrivé, quoi. C'est vraiment marrant parce que c'est une toute petite administration, 4000 personnes, c'est rien du tout, qu'on n'arrive pas à les faire changer. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a de l'histoire, les gens, le problème quand vous êtes nommé à la curie, c'est qu'ensuite vous ne pouvez pas être licencié. Donc vous êtes là à vie quelque part, il n'y a pas de ressources humaines, enfin bon, on est dans un système quand même très archaïque. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui en plus est assez, enfin c'est pas gentil pour l'Italie, mais il y a un côté un peu romain, la curie étant à Rome, hein, comme chacun sait. Et donc un côté à la fois assez bureaucratique, assez inefficace, avec beaucoup de passe-droits, de gens qui sont là parce qu'ils sont de tel village, donc ils vont se retrouver embauchés. Donc voilà, vous avez quelques villages italiens qui connaissent bien le truc. Ce qui est super bien à la curie, c'est d'avoir la carte qui vous permet d'avoir l'essence que vous achetez dedans à l'intérieur du Vatican détaxé, donc c'est pas cher du tout. Voilà, on est dans un milieu quand même assez mafia, assez mafieux. Et c'est
ah
ça.
Oui, à ce point-là.
Oui,
vous prononcez ce mot-là.
Ouais. Oui, bah il l'a dit, ouais. Le pape François, assez mafieux. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été évincés de la curie, des cardinaux, parce qu'on savait très bien qu'ils avaient profité de l'argent et mis en place un système mafieux de travaux publics.
À ces mots, donc, des remèdes, quelques pistes évoquées dans cette nouvelle, pour cette nouvelle constitution apostolique qui doit réformer la curie et peut-être continuer les réformes entreprises, vous le disiez tout à l'heure, François Mabille, par le pape François depuis le début de son pontificat. Parmi les pistes évoquées, il y a ce nouveau chemin, hein, ce sont les mots utilisés par le pape, notamment celui de la synodalité. Qu'est-ce que cela veut dire, François Mabille?
Mais cela veut dire qu'au lieu d'avoir un système centralisé comme il existe actuellement, le pape souhaiterait une église plus décentralisée et travaillant moins dans l'entre-soi que vous évoquiez à l'instant, mais plus par des réunions avec les évêques choisis, mais représentant le monde entier sur des sujets particuliers. Ce qu'il a tenté
de faire.
Sur
la famille, par exemple.
Ce qu'il a fait, par exemple,
en 2014 et 2015.
Sur la famille. À deux reprises. Avec alors un problème que vous évoquiez il y a un instant, Isabelle de Golemin, c'est que pour l'instant, il dispose d'un personnel, et je dirais de générations d'évêques, dont je ne suis pas certain qu'ils partagent tous la culture qu'ils souhaiteraient inculquer. Pour moi, si vous voulez, c'est vraiment la clé de la réforme. C'est-à-dire comment structurellement le pape peut essayer de changer l'accès aux responsabilités, premier point. La transparence dans cet accès, mais également l'évaluation du travail accompli. Et puis, je dirais également sur quelles compétences. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont effectivement des prêtres, plutôt des prêtres âgés, qui sont tous passés par les mêmes moules des universités pontificales, ou en tout cas par une discipline qu'on pourrait interroger, le statut de la théologie au sein de l'Église catholique et des accès auxquels elle donne mériterait d'être posé. Notamment d'ailleurs lorsqu'on questionne des postes qui relèvent d'un gouvernement. Et vous voyez, si on pointe ce sujet-là, bien évidemment, la question de la méthode que vous évoquiez, c'est-à-dire la synodalité, ne répond pas à toutes les questions. Si vous travaillez avec des personnes, certes dans un synode, mais qui relèvent toujours du même moule, de la même formation, peu ou prou, vous retrouverez à terme des problèmes similaires.
Isabelle de Golemin.
Et le pire, c'est qu'il a choisi des cardinaux qui pensaient être des gens de confiance pour l'entourer.
Pour le conseil des cardinaux.
Et là-dedans, il y en a qui se sont révélés d'être des planches pourries de manière incroyable.
Notamment le cardinal australien.
Le cardinal Pell, australien, et puis le cardinal
impliqué dans une affaire de pédophilie.
Aussi, pareil, impliqué aussi dans des affaires de couverture, pour le coup, de prêtres pédocriminels. Mais c'est ça qui est terrifiant, c'est-à-dire presque d'une certaine manière, il arrive trop tard. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont pourries au royaume de l'Église, quoi. Et donc, d'où c'est la difficulté. Et puis aussi, il faut bien se mettre dans l'Église, c'est une institution qui a toute une histoire et qui a pris la place de l'Empire romain. Et donc, qui a une vision impériale des choses. Ça fait pas longtemps que l'Église n'a plus de territoire, hein. C'est juste au début du XXe siècle. Donc avant, il y avait les territoires. C'était il se concevait comme un empire. Et il y a encore cette espèce d'esprit impérial qui fait que quand vous êtes à Rome, vous pensez que vous régnez sur le monde. Et c'est ça qu'il essaye de changer.
Mais à vous entendre, on a l'impression que cette réforme est vouée à l'échec, François Mabille.
Non, elle n'est pas vouée à l'échec. Disons que, de nouveau, tout dépend de ce que l'on attend d'elle. Le pape a donné d'ailleurs dans son discours inaugural quelques éléments d'évaluation avec l'idée que la réforme devrait permettre d'être plus près des pauvres et des marges, devrait permettre de s'occuper des signes des temps, c'est-à-dire on va dire des questions les plus urgentes, pressantes, d'où la création d'un dicaster sur le développement humain intégral, par exemple. Donc par rapport aux critères même qu'il s'est donné, la réforme peut tout à fait produire des éléments intéressants. En revanche, par rapport à une réforme culturelle beaucoup plus globale d'articulation avec les conférences épiscopales, avec tout simplement, en langage fleuri catholique, le peuple de Dieu ou tout simplement les fidèles. Là, je pense qu'on est devant, effectivement, un véritable hiatus.
Il faut du temps aussi, hein, parce que si la grande réforme de l'Église, c'est Vatican II, donc le Concile Vatican II, hein, 62-65, et on n'a pas encore appliqué tout ça. Donc, c'est vrai encore une fois, plus d'un milliard de personnes, ça demande aussi beaucoup de temps. Donc, il fait quand même des choses, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être trop pessimiste, mais de toute façon, ça va mettre du temps pour bouger.
Parmi les expressions utilisées pour parler de cette réforme, les éléments de langage, comme on dit en politique, il y a ceci, l'église de l'écoute, l'église de la parole, c'est ce que veut promouvoir François, car les fidèles veulent parler, eux qui ont perdu confiance, en tout cas pour certains, dans l'église, du moins une grande partie d'entre eux donc. Problème de confiance, on l'a dit, lié au scandale de pédocriminalité, d'agression sexuelle sur des religieuses. Et ce, Céline Béraud, alors que le discours moral, le discours largement porté par l'église au cours des 40 dernières années, était centré sur ces questions de morale sexuelle.
Oui, il y a eu comme une sorte de conflagration à laquelle on a assisté et à l'échelle de la planète et à l'échelle du catholicisme français avec la publicisation de toute une série de scandales, d'affaires qui étaient souvent connues, mais qui tout à coup, sur lesquelles des mots ont été posés. Alors, ça a été effectivement le livre Sodoma, ça a été le documentaire d'Arte sur les religieuses abusées, sur des religieuses abusées en France, abusées au Vatican. Ça a été également, bien sûr, l'affaire dite Barbarin, autour donc du silence de certains évêques par rapport à ces affaires criminelles. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout ça vient remettre en cause les modalités de gestion de l'autorité. C'est-à-dire qu'il y a cette affaire de la Curie qui est une affaire dont on a compris très technique, très sophistiquée et peut-être dont il ne faut pas trop attendre, si j'en crois mes deux collègues. Et puis, il y a une soif de réforme dans les modalités d'exercice de gestion de l'autorité.
Soif de réforme qui vient des fidèles de la base.
Qui vient des fidèles, qui vient de certains prêtres également, et qui sont portés aujourd'hui justement pour davantage de collégialité, peut-être davantage de place pour les conférences épiscopales, davantage de place pour les laïcs et davantage de place pour les femmes. Avec l'idée que tous ces scandales où ces mensonges, ce secret qui fait système, peut-être que si justement il y avait davantage de place qui était faite aux laïcs et notamment à des femmes, on sortirait de cette culture-là.
C'est ce que vous disent vos lecteurs, Isabelle de Golemin, les lecteurs de La Croix.
Oui, on a fait une grande enquête, on a lancé une grande enquête qu'on appelait Réparons l'Église, ce qui était ce que
disait
François et François d'Assise.
Ouais.
Avait dit ça. Dieu lui avait dit, va réparer mon Église. Et donc on a lancé à la fois sur le site, dans le journal, etc., des appels à contribution. Et effectivement, on a plus de 5000 réponses, donc un gros taux de réponses, parce qu'à chaque fois les réponses sont très longues. Les questions sont très nombreuses. En fait, je crois qu'il faut vraiment prendre la mesure de la sidération dans laquelle sont aujourd'hui les catholiques, notamment les catholiques français, mais les catholiques européens en général. C'est-à-dire que jamais ils auraient pensé que l'Église était à ce point pourrie de l'intérieur. C'est-à-dire ce qui se passe là depuis 2, 3, 4 ans, c'est quelque chose qui est effrayant. Donc, du coup, il y a beaucoup de catholiques qui ont perdu confiance dans leur hiérarchie et qui voudraient retrouver cette confiance. Et donc, ils nous écrivent à la fois pour dire leur douleur, leur souffrance, parce que quand même, ils sont catholiques, et en même temps, effectivement, ce que disait très bien Céline, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait donner plus de pouvoir, ou en tout cas, introduire plus de diversité dans l'Église. Aujourd'hui, il n'y a que les prêtres qui ont l'autorité, donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des laïcs qui seraient aussi munis de cette autorité? Et puis, plus de concertation, et puis plus de dialogue aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue, les choses viennent beaucoup d'en haut. Donc voilà, il y a toute cette demande-là qui est très importante, et c'est vrai que ce que vit aujourd'hui l'Église catholique est quelque chose d'assez effrayant quand même.
Céline Béraud.
Oui, c'est l'exemple de la croix et du pèlerin est tout à fait intéressant, mais c'est aussi des débats en paroisse. Il y a énormément de paroisses où des débats sont organisés par des laïcs ou par des prêtres pour justement porter une parole sur ces affaires, notamment ces crimes sexuels, mais très vite, moi j'ai assisté à un de ces débats-là, très vite on passe à une autre question qui est celle de la place des laïcs, de la place des femmes, et ça libère une parole, c'est-à-dire qu'il y a des choses que certains catholiques très attachés à l'institution, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une contestation aux marges de l'Église, parce que des contestations sur les modalités d'exercice du pouvoir, des critiques de la curie, des critiques de l'épiscopat, etc., c'est pas du tout nouveau. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est des gens qui se déclarent, c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire des gens qui se déclarent très attachés, qui sont des fidèles, qui sont des pratiquants, et qui justement veulent de l'intérieur changer les choses. Et il y a aussi toute une série d'ouvrages que moi je trouve tout à fait intéressants. Je pense à l'ouvrage d'Anne Soupa, je pense à l'ouvrage de Véronique Margron, qui sont des femmes qui se déclarent catholiques, qui se déclarent attachées à leur institution, et qui veulent que ça change de l'intérieur, partant justement de ces scandales, et vont très loin. Anne Soupa, qui était très prudente sur cette question-là, aujourd'hui, dit « il faut des femmes prêtres », ce qu'on n'entendait pas du tout, ce qu'elle n'avait pas osé dire il y a quelques années, probablement qu'elle le pensait déjà, mais elle ne l'avait pas écrit en tous les cas.
On voit, François Mabille, hein, avec ce que disent Isabelle de Golemin et Céline Méraud, qu'il y a une forte demande de réforme de la part des fidèles, de la part de certains prêtres. Demande de réforme, soif de réforme qui a une oreille au Vatican, avec celle de François en tout cas sur certains points, et on a le sentiment que entre les deux, parfois, il y a des cardinaux qui font barrage à cette soif de réforme. Est-ce que ça correspond ça à la réalité? Et on se demande d'ailleurs comment du coup l'Église va bien pouvoir évoluer et changer.
Oui, ça correspond à une réalité, en sachant que les résistances sont nombreuses et ne portent peut-être pas toutes sur les mêmes sujets. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la question, de l'ordination de femmes, qui est une question très particulière et qui peut être dissociée de la question plus globale de la gouvernance de l'Église. La question de la collégialité ou de la synodalité, c'est la même chose. C'est encore une question d'un type particulier. Et puis, vous avez des résistances qui portent plus, effectivement, sur l'organisation du pouvoir, et d'autres qui relèvent peut-être, notamment autour des questions de pédophilie, mais pas uniquement, sur le rapport simplement entre l'Église et le monde. J'ai très frappé de lire des textes de cardinaux disant mais finalement c'est précisément, on évoquait Vatican II, c'est précisément parce que l'Église est trop ouverte au monde que nous sommes dans cette situation-là. Voilà. Donc au contraire, soyons peut-être de nouveau plus rigides sur la question des dogmes, plus fermés, n'ouvrons pas les séminaires sur leur environnement immédiat et les choses iront mieux. Donc vous voyez, ce sont des résistances multiples. J'étais très frappé d'entendre de manière récurrente à Rome, on évoquait des commérages, alors ce sont sans doute des commérages, mais l'idée d'un schisme possible, évoqué d'ailleurs par les adversaires du pape François en disant s'il y a un schisme, ce n'est pas nous qui deviendrions schismatiques, mais le pape qui se placerait lui-même en situation de schismatique. Vous voyez derrière ça, cela montre la virulence des oppositions. N'oubliez pas qu'il y a deux ans maintenant, trois ans, des plaquettes, des petites affiches ont été mises de nuit dans les murs, sur les murs de Rome pour attaquer le pape, ce qui n'avait pas été vu depuis le 19e siècle. Donc il y a à la fois, je dirais, des enjeux idéologique au sens large, et puis je crois qu'il y a un enjeu qui se polarise autour de la personnalité même du pape.
Isabelle de Golemin, puis Céline Béraud.
Oui, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'époque moderne, c'est-à-dire des cardinaux qui ouvertement disent que le pape n'est plus pape en fait, et disent que ce pape-là n'est plus dans l'orthodoxie catholique, qu'il n'est plus dans la doctrine de la foi telle qu'elle doit être dite. C'est vraiment la première fois.
C'est vraiment la première fois parce que
l'Église a toujours été divisée.
Des tensions, oui, des divisions.
Il y a toujours des tensions. On l'a bien vu après.
Des groupes excommuniés.
Mais là, c'est quand même la première fois qu'il y a des cardinaux qui signent des pétitions ouvertement. Enfin, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors, le pape François lui-même avait dit il faut que le dialogue se fasse, il faut que le débat se fasse. Bon, bah là il y a du débat. Effectivement, il y a un gros point de fracture, c'est sur la famille, puisque après le synode, il a fait ouvert la porte, ce qui paraît quand même pas très audacieux, pour dire que les couples divorcés, remariés, pourraient de nouveau avoir accès à la communion. Mais effectivement, pour un certain nombre de gens dans l'Église, notamment de cardinaux, c'est une brèche qu'on commence à ouvrir dans le dogme de l'Église, de l'indissolubilité du mariage, etc. Donc c'est une toute petite phrase dans un document du pape, et ça fait énormément débat. Donc on voit quand même la force de l'opposition, et effectivement, tout va dépendre non pas de François, mais de la personne qui va lui succéder en réalité. C'est ça l'enjeu.
Oui, justement, je voulais parler des deux synodes sur la famille, parce que avant même que le petit texte suscite des débats, les deux sessions des synodes sur la famille avaient justement donné à voir à l'échelle planétaire les divisions et l'hostilité très forte à tout changement du magistère sur la question du mariage. Et effectivement, ça a accouché d'une toute petite chose qui n'est pas du tout négligeable, qui est la possibilité pour des personnes divorcées, remariées, dans une démarche d'accompagnement, de pénitence, d'avoir de nouveau accès à la communion, ce qui jusqu'à présent était tout à fait interdit. Mais d'autres questions avaient été évoquées sur les couples de même sexe, notamment, et tout ça avait été balayé, avait donné lieu à des affrontements très forts, qu'on peut pas réduire à un affrontement nord-sud. Ça avait été un peu, parfois on dit, voilà, il y aurait un nord progressif et un sud qui serait conservateur. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les lignes de front sont beaucoup plus multiples, et on sait très bien qu'une des grosses oppositions, c'était cardinal Burke, qui est un Américain et pas du tout un cardinal venant du sud.
Sur le mariage, justement, on parle du mariage ici entre des laïcs, mais il y a le mariage des prêtres aussi qui revient régulièrement dans les discussions. Est-ce qu'à l'occasion de cette réforme de la Curie, François Mabille, c'est un sujet qui est revenu dans l'actualité du Vatican? Je lisais que le pape avait évoqué l'ordination d'hommes mariés en Amérique du Sud.
Oui, mais c'est lié vraiment à des situations extrêmement particulières. Je ne pense pas qu'il y ait une demande, oui. Il y a une demande. Je dirais qu'il y a aussi, sous certaines formes, des pratiques, même si, bien évidemment, elles ne sont pas officielles. Mais ça renvoie, bien évidemment, de nouveau à l'écart entre l'orthodoxie revendiquée et l'orthopraxie. Voilà. Et en l'occurrence, il n'y a pas d'orthopraxie, où elle est très libre et à géométrie variable. Je ne suis pas sûr que le pape prendra le risque, à cette occasion, d'ouvrir ce débat ou de faire des propositions.
En tout cas, ça devrait...
Mais effectivement, ça a été évoqué. Ça serait plutôt à l'automne.
Voilà, il y a un synode sur l'Amazonie.
Exactement.
L'Amérique latine, et c'est une grosse demande là-bas. Et puis les Allemands ont aussi, pareil, ouvert une brèche avec un document que le pape l'a dit, en tout cas il est d'accord avec la manière dont ils font cette propre réforme à l'intérieur de l'Église allemande. Les Allemands sont beaucoup plus audacieux que les Français sur la réforme, et d'ailleurs beaucoup plus proches du pape. Et eux aussi commencent à parler de l'ordination d'âme mariée. Moi je pense qu'on va y aller, il va sans doute donner la possibilité dans des territoires donnés, mais c'est ça la réforme pour le pape François, c'est-à-dire que c'est ce qu'il appelle la subsidiarité. Il y a des endroits où c'est pas possible, il y a des endroits où ça va pouvoir se faire.
C'est de la réelle politique.
Oui, c'est aussi de dire que tous les catholiques sont pas pareils. Vous n'êtes pas catholique de la même manière aux États-Unis, en France, en Allemagne et dans certains pays d'Afrique. Voilà. Donc tout le monde n'en est pas. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, et c'est peut-être intelligent de se dire on peut faire des choses de manière différenciée. Mais c'est vrai que comme l'esprit romain est très très centralisateur, il faut que... Ils sont très français d'ailleurs, les Romains, pour ça. C'est vraiment un système bureaucratique où tout le monde doit penser pareil sur tous les points de la planète.
C'est le numéro.
Peut-être un dossier qui est assez raisonnable et qui pourrait peut-être avancer, ça je pense que c'est pas à exclure, c'est l'accès des femmes au diaconat permanent. Le diaconat a été réinventé par le concile de Vatican II, mais n'accède au diaconat que des hommes.
Et pour ceux qui ne le connaissent pas,
alors diaconat permanent, c'est une sorte de ministère hybride qui rattache les hommes à l'état de clerc, mais qui, par l'état de vie de ces hommes qui peuvent être mariés, exercer une profession sur le marché du travail séculier, les rattache à l'état de laïc. Donc ça a pris une ampleur importante. Aujourd'hui, il y a 2500 diacres en France, par exemple, et une des questions, c'est l'accès des femmes à ce diaconat, puisque il y a un précédent historique, c'est-à-dire dans les premiers temps de l'Église, il y avait des femmes diaconesses. Alors, elles faisaient des choses très spécifiques, mais les hommes diacres aujourd'hui ne font pas, font des choses très très différentes de ce que faisaient les hommes diacres des premiers temps de l'Église. Et donc, il y a eu plusieurs demandes portées effectivement, notamment par l'épiscopat allemand, qui est effectivement très très en pointe sur ces questions-là, par l'épiscopat canadien. Il y avait une première commission théologique internationale qui s'était réunie au début des années 2000, qui avait rendu des conclusion assez prudente, assez réservée, mais pas complètement fermée. Et la question s'est reposée. Elle a été reposée par des religieuses. On entend de plus en plus les religieuses dans l'Église catholique. C'est très, très intéressant. Et pas uniquement à propos des scandales sexuels. Ça a été évoqué, des religieuses violées, abusées, mais aussi des religieuses qui considèrent qu'elles font un travail invisible, dévalorisé, etc., etc. Et c'est des religieuses qui interpellent le pape François à Rome en mai 2016. Et qui justement lui disent « alors, le diaconat permanent ». Et le pape François a réuni une commission où il y avait presque une parité entre hommes et femmes. Paraît-il que cette commission a fini de travailler, mais les conclusions n'ont pas encore été rendues publiques.
Parlons encore de méthode. On a parlé de la synodalité, donc de ces réunions qui pourraient contribuer à changer l'Église. On a parlé du conseil des cardinaux et que vous avez critiqué. En tout cas, vous avez apporté quelques éclaircissements, voilà,
sur quelques membres malheureux.
C'est ça. Le Vatican a dit aussi qu'il y avait eu une, il l'a dit il y a quelques jours, une vaste consultation. Et c'est pas dans ses habitudes de donner les dessous de la fabrication d'un texte. Il a dit aussi qu'il y avait eu des experts extérieurs au Vatican qui avaient été consultés. Est-ce qu'on sait qui et quel rôle ils ont pu jouer, quelle pression, quel conseil ils ont pu donner aux membres du Vatican qui travaillent sur ce sujet? François Mabille.
Alors personnellement, je ne les connais pas. Est-ce que c'est exceptionnel? Non, ça arrive relativement fréquemment, que notamment d'ailleurs pour la rédaction d'une encyclique, les experts sur tel ou tel sujet soient contactés, consultés. Je trouve personnellement dommage que sur un sujet aussi important, la transparence n'ait pas été totale et que précisément pour l'instant, on n'en sache pas plus. Parce que il serait intéressant de savoir quels sont ces experts. On a évoqué des universitaires, très bien. Vous avez 700 universités catholiques à travers le monde, très diverses, dans leur statut, dans leurs orientations. Les universités romaines sont très particulières quand vous les comparez aux autres. Donc vous avez quand même des profils d'experts qui sont extrêmement différents. Donc je trouve que le manque de transparence sur ce sujet est préjudiciable.
Isabelle de Golemin.
Oui, ce qui est nouveau effectivement, parce qu'il y a toujours eu des experts, c'est qu'on le dise. C'est peut-être ça qui est nouveau, qu'on mette un peu cette consultation sur le tapis. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il y ait comme ça une consultation de ce qu'on appelle les conférences épiscopales, donc qui sont dans chaque pays et qui réunissent les évêques. Alors, il paraît que les Français n'ont pas reçu le document dans leur spam. On a dit à Rome, ils devaient dans leur spam. J'en sais rien. En tout cas, la plupart des pays ont reçu ce document. Et ça, c'est très nouveau. parce qu'il faut bien voir que depuis Vatican II, il y a une hantise dans l'Église catholique, c'est que l'unité se brise. Et le pape Jean-Paul II, notamment, aidé de Ratzinger, qui sera après Benoît XVI, a tout fait pour que dans les pays, il n'y ait pas de pouvoir. Les conférences épiscopales, surtout, n'ont aucun pouvoir réglementaire, ils ne peuvent rien faire, pas faire de texte théologique, etc.
Ce que veut changer François.
François le change, et déjà en les consultant, en faisant beaucoup appel à des textes, notamment les textes des conférences allemandes ou argentines qui l'arrangent plutôt. Et ça, c'est vraiment nouveau. Donc, alors, c'est là où il y a des conservateurs qui disent, oh là là, c'est horrible, on va aller vers une fracturation de l'Église catholique, ça ne sera plus l'Église unie. C'est vrai que le pape est garant de l'unité de l'Église, hein, et c'est pas facile, parce qu'on voit bien que l'Église est très différente, et très diverse en tout cas. Mais voilà, ça c'est intéressant, et c'est quand même intéressant que ces conférences épiscopales soient consultées, qu'elles puissent ensuite renvoyer leur propre copie. C'est plutôt nouveau ça quand même.
Il nous reste quelques minutes. Une question pour terminer. Est-ce que, et compte tenu de tout ce que vous avez dit, c'est un sujet qu'on a déjà un peu évoqué en fil rouge, est-ce que l'Église telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle est structurée, est réellement réformable? Et si oui, à quelle échéance? François Habille.
Réformable, oui, sans doute. Pour moi, c'est peut-être moins le sujet que réformer sur quoi, pour quel type de fonctionnement. Et si on veut être d'ailleurs très honnête, je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de modèles alternatifs. D'abord, dans son organisation, c'était dit tout à l'heure, c'est une organisation centralisée, hiérarchique. Vous n'allez pas transformer l'Église catholique en démocratie, ça n'aurait pas de sens, voilà. Donc c'est assez difficile de trouver des voies intermédiaires dès lors que, comme je vous le disais, la figure du prêtre et le statut de la théologie demeurent identiques dans l'Église catholique. Et ensuite, sur un plan purement organisationnel, les autres modèles qui existent ne sont pas nécessairement des modèles à suivre. Vous voyez bien que l'Église orthodoxe propose un modèle particulier, mais qui est aussi en difficulté. Et au niveau du protestantisme, la fragmentation terrible du protestantisme nuit et ne peut pas être un modèle pour une structure qui, comme le disait Isabelle il y a un instant, est centrée sur l'unité de son corps.
Isabelle de Gaulmin.
Oui, il faut quand même dire que l'Église, elle a toujours été réformée, elle se réforme toujours. Hein. L'Église dans laquelle nous allons aujourd'hui le dimanche n'a rien à voir à celle d'il y a 50 ans. Donc de toute façon, cette réforme, elle a toujours lieu et c'est très bien. Alors le problème, c'est que le mot réforme fait très peur aux catholiques, parce que ça rappelle les protestants. Mmh. Et que donc depuis la réforme protestante, on ne parle plus de réforme. Alors on invente plein d'autres mots pour dire, voilà, mais c'est surtout pas la réforme, mais c'est quand même la réforme, c'est des réformes progressives. Et je crois que l'Église, elle doit suivre son temps. Là aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a une énorme évolution de anthropologique de notre monde qui est effectivement la révolution féminine et je pense que ça c'est le principal défi aujourd'hui de l'Église catholique, c'est comment est-ce qu'elle peut effectivement suivre cette évolution sans se casser. En tout cas, on ne peut pas aujourd'hui avoir une Église au XXIe siècle qui est où les femmes sont toujours la partie dominée de cette manière-là.
Céline Béraud.
Oui, je vais consonner avec Isabelle de Gaulmin. Effectivement, il y a la question de la place des femmes. Il y a la question du dialogue avec le monde aussi. C'est-à-dire cette fermeté dogmatique qui crée une citadelle assiégée. Et je pense qu'il y a une intuition dans... Il me semble que le titre provisoire là, de la Constitution, c'est proclamer l'Évangile, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est cette idée peut-être moins de mettre la norme en avant que d'aller proposer ce qui est pour les catholiques la bonne nouvelle. En tous les cas, il y a une très grande soif de réforme chez les fidèles. Vraiment énorme et qui peut-être risque d'être déçu vu l'ampleur effectivement des chantiers en cours.
En un mot, avec cette réforme, on parlait des oppositions, on a quelques secondes, mais on parlait des oppositions très fortes face à cette réforme portée par le pape François. Si elle passe, est-ce qu'il y aura moins d'oppositions, même si elles sont plus virulentes, Isabelle de Gaulmin ?
Je sais pas. Moi, je pense que vraiment, elle va se jouer sur le prochain pape. C'était pareil d'ailleurs pour Vatican II. C'est-à-dire que si le prochain pape qui sera élu après le pape François n'a pas la même volonté de réforme, alors ça aurait été un coup pour rien.
Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef à La Croix, Céline Béraud, sociologue, directrice d'études à l'EHESS, et François Habille, chercheur en sciences politiques au CNRS. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton et Lodeuil Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation Thomas Jost. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, le site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été ou bien l'application Radio France. Demain, nous parlerons de délinquants éloquence avec cette question : fait-elle son retour dans le débat politique ?